Pierre Gontier, lettre à l'inconnu. Voilà que je t'écris une lettre que tu ne liras pas, toi. N'importe qui de n'importe où. N'importe qui de nulle part. Comme je ne suis pas sûre que tu existes, j'avais l'idée de te créer moi-même, à ma convenance. Voilà que j'hésite. J'ai l'exemple peu convaincant de Dieu, ce vaniteux qui voulut l'homme à son image. Avec le recul, on se dit qu'il a raté son coup, que 6 jours ne lui ont pas suffi ou qu'il aurait dû chercher l'inspiration ailleurs. Ce n'est pas que, personnellement, je manque de prétention. Il m'arrive même de me trouver pas mal du tout. Mais c'est que mon image commence à dater un peu. On dit que les hommes changent. Tu parles, Charles. Arrêt sur image. C'est le lot de chacun de nous. Moi, je sais bien que je me colle à la peau. Alors que je me voudrais multiple, versatile, inconstant, déroutant, inattendu, mystère pour les autres, vertige pour moi-même. Ça fait longtemps que je suis moi et que je le reste. Pourtant, de moins en moins de gens me reconnaissent dans la rue. Il faut dire que de mon côté, je n'ai plus grand monde à saluer. On dirait que mes amis ont une tendance de plus en plus marquée à détester mes chemins. Et comment leur en faire le reproche alors qu'ils ne donnent plus signe de vie? Voilà pourquoi j'ai espéré pouvoir m'adresser à toi, l'inconnu. À toutes fins inutiles, j'en ai peur. Tu ne m'as rien donné. Pas même un bout de bois, pas même un bout de pain. Je ne t'ai rien offert non plus. Je ne te dois rien, tu ne me dois rien. Si tu apparaissais dans mon jardin en disant « Bonjour, l'inconnu, c'est moi », il n'est même pas sûr que tu serais bien reçu. Je penserais « Encore un qui veut me vendre un calendrier », à moins que ce ne soit des convictions ou des croyances. Et je te fermerai la porte au nez, tellement je suis certain de n'avoir besoin de croire que ce que je crois. C'est déjà assez compliqué sans y ajouter des idées qui ne sont pas les miennes. Pardonne-moi, l'inconnu. Je ne parle que de moi. Je ne sais pas faire autrement. Mais toi, de ton côté, il semblerait que tu n'as rien à me dire. J'ai beau tendre l'oreille. Alors, restons-en là. Tu ne seras qu'un de plus parmi ceux que je ne connaîtrai jamais. Je ne suis pas sûre de le regretter. Postscriptum. Excuse-moi, l'inconnu. On sonne à ma porte. Il faut que j'aille ouvrir. On ne sait jamais. Peut-être que... Et puis j'ai bien le droit de ne pas être toujours d'accord avec moi-même. Michel Testu, l'écrivain. Un cocktail convenu et vaguement mondain. J'y participe par habitude et pour faire plaisir à quelques amis. On me présente. Dans le groupe, une femme entre 2 âges, décidée, un peu voyante, avec une opulente tresse blonde et un foulard Hermès en sautoir. Elle m'observe et me lance. « Ah, c'est vous l'écrivain ?» Puis le regard perçant, lourd, appuyée plus qu'il ne faut, elle me demande avec une pointe d'ironie. « Et vous écrivez quoi, monsieur l'écrivain ?» Le plus clairement et le plus sobrement possible, je tente de lui expliquer ce que je fais et quels sont mes sujets de prédilection. L'enfance, la nostalgie, les bonheurs de l'instant. « Bonheur d'enfance, c'est de vous ?»« Non, c'est de Christian Signol. » « Vous le connaissez, évidemment. »« Quoi, le livre ?»« Non, Christian Signol. » »« Un peu. Je le rencontre à la foire du livre de Brive. » Puis, avec, me semble-t-il, un éclair de malice perfide. « Et Jean d'Ormesson, vous le connaissez, celui-là »« Pas personnellement, mais je connais et j'aime ses livres. » Elle semble déçue et pose sur moi un regard condescendant, légèrement sarcastique. Puis elle dit, avec tout à coup je ne sais quoi de rêveur dans les yeux, « Récemment, j'ai lu un petit livre délicieux que j'ai trouvé chez ma mère. « C'était quoi ?» lui demandai-je distraitement et par pure bienséance. « Le titre ?»« Les petits matins » ou « Mes petits matins ». Je ne me souviens plus exactement, ni même, vous allez rire, du nom de l'auteur. Mais c'était exquis. Soudain intrigué, je demande « La couverture n'était-elle pas illustrée par une belle photographie de peuplier dans la brume ?»« Oui, c'est exactement ça. Vous l'avez lu ?»« Non, je l'ai écrit. »« Oh, il y a longtemps ?»« Presque 20 ans. Un de mes premiers livres. » Un ange passe sur notre badinage. Elle m'offre un regard admiratif et esquisse comme un sourire d'excuse. Je vous félicite. L'embarras ennuyé qui m'avait gagné cède d'un coup place à l'assurance. Un bref spasme de snobisme me traverse. Je me rengorge et à mon tour je promène un regard magnétique sur les personnes présentes. Quel bonheur de se laisser aller complaisamment à goûter un petit instant de gloriole littéraire. Michel Testu, jardinier. Je me souviens des jardiniers de mon enfance. Ils étaient ceints d'un grand tablier de rude toile bleue, muni d'une sorte de poche marsupiale pour y glisser le sécateur, le raffia et quelques graines de radis. Ils avaient du poil d'ours dans les oreilles, se coiffaient d'un chapeau de paille tressé en forme de casque colonial et portaient de grands arrosoirs de fer en claudiquant dans des sabots de bois démesurés et à bout relevés. Ils tiraient au cordeau l'alignement parfait de leur petite culture potagère qui paraissait attendre l'inspection, comme une troupe à la parade. Ils déambulaient en funambule entre les rangs de salades, sur des planches étroites pour ne pas tasser la terre finement ratissée de leurs plates-bandes, et se penchaient avec dévotion sur de minuscules serres à semis, habilement confectionnées de quelques planches et d'une ou deux vieilles fenêtres vitrées. Ils produisaient des tomates goûteuses comme des fruits, des citrouilles éléphantesques qui semblaient sortir d'un conte pour enfants, et des poireaux si délicats qu'il permettait de se passer avantageusement d'asperges. Ils badigeonnaient coquettement de blanc d'Espagne les troncs de leurs fruitiers et sulfataient de bleu leurs plants de pommes de terre. Ils craignaient les méfaits des lunes rousses et décimaient aux flitox, limaces et doryphores. Dans leur jardin, l'air sentait le céleri, la sarriette et le feu d'herbe sèche. Tout au bout d'une petite allée bordée de fraisiers, ils entretenaient une modeste volière pourvoyeuse d'œufs frais et quelques clapiers qui assuraient le civet des jours de fête.